Le conseil de cette église a choisi que le thème des prédications, ce serait la sagesse. Alors, il y a un mois, je vous avais parlé de la sagesse. Et j'avais insisté sur le côté, la sagesse, c'est une réflexion, c'est une pensée, c'est réfléchir. Et c'est là parce que Dieu nous rend responsables. On doit être sage parce que nos décisions, les choix que l'on fait, eh bien, Dieu nous en tient comme responsables. Et il est bien important d'être sage pour prendre des bonnes décisions. Alors, on avait traité ce sujet. Et le livre des Proverbes sur lequel on était parti, son rôle essentiel, c'est de nous montrer combien la sagesse conduit à la bénédiction, aux bonnes choses, et combien la stupidité nous amène n'importe où. La sagesse. Est-ce qu'on est vraiment sage? Alors, je trouve on a toujours l'impression, personnellement, qu'on est relativement sage. Je pense que personne ne se trouve stupide. Ça fait pas partie de nos conceptions. Mais c'est très intéressant de regarder les autres. Alors, c'est un peu un côté de jugement, en regardant les autres. Mais quand même, tellement souvent, quand on regarde autour de nous, on voit les gens qui prennent des décisions où c'est évident que ça finira mal. On voit autour de nous combien de personnes sont pas sages ou ont des poursuites de choses illusoires ou se trompent. Et quand on voit que c'est si général, on se dit que soi-même, on doit être aussi un peu dans ces eaux-là. On a vraiment besoin de sagesse et on manque de sagesse. Comment alors trouver cette sagesse? Pourquoi on manque de sagesse? Suzy, l'autre jour, elle avait eu une fille de 18-19 ans, je crois, qui est venue pour prendre des leçons de maths. C'était sur le calcul des probabilités. Bon, ceux qui ont fait un peu de maths savent que le calcul des probabilités, c'est pas facile. C'est vraiment une des branches des mathématiques qui est embêtante et qui est difficile. Et Suzy essayait d'expliquer à cette jeune un peu faire ses exercices de maths, comment on fait. Elle s'est rendue compte que c'était difficile parce que cette fille, même les fractions, elle ne savait pas les comprendre et les manipuler. Comment voulez-vous faire du calcul des probabilités si vous ne savez pas ce qu'une fraction? Ben, c'est un petit peu, je pense, notre problème avec la sagesse. Pourquoi on a tellement de peine à prendre des décisions sages? C'est parce qu'il y a des bases qui nous manquent. On veut faire des probabilités sans connaître les fractions. On veut marcher avec sagesse sans connaître les fondements de la sagesse. Et dans le livre des Proverbes, quel est le fondement de la sagesse? Quel est le départ de la sagesse? Quel est le béaba de la sagesse? Sur quoi la sagesse peut construire? Eh bien, dans le chapitre 9, au verset 10, il est dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance du Dieu saint, voilà en quoi consiste l'intelligence. » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? Qu'est-ce que ça veut dire finalement avoir peur de Dieu? La crainte, c'est la peur, avoir un respect, mais pas un respect superficiel, un respect rempli, mais de peur, n'ayons pas peur des mots. Qui a peur de Dieu, vraiment? C'est vraiment une notion qu'on oublie. Elle est tellement contraire aussi, je dirais, à notre conception des choses. Avoir peur, c'est quelque chose qui est présenté, qui est pour nous négatif. Avoir peur, c'est mal. Avoir peur de Dieu, mais ça nous semble contradictoire. Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu est pour nous. On entend sans arrêt ce message, et il est vrai. Mais avoir peur de Dieu. Souvent, on n'aime pas l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte qu'on a affaire à un Dieu qui est... Sans hésitation, un Dieu qui est vraiment sévère. Un Dieu qui prend des mesures face aux péchés qui sont assez extrêmes. Et on n'aime pas beaucoup ça, ça nous gêne. Et on se dit, mais c'est l'Ancien Testament. Heureusement, dans le Nouveau Testament, les choses ont changé. Maintenant, on connaît la grâce, on connaît tellement de choses. Oui. Et les choses ont changé entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Certainement. Je vais vous lire quand même 3 ou 4 versets dans le Nouveau Testament. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. En effet, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une terrible attente du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les adversaires de Dieu. Remarquez, il s'adresse à des croyants, des chrétiens. Celui qui a violé la loi de Moïse est mis à mort sans pitié sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Quelle peine bien plus sévère méritera-t-il donc, à votre avis, celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura jugé sans valeur le sang de l'Alliance grâce auquel il a été déclaré saint, et aura insulté l'Esprit de la grâce. Insulté l'Esprit de la grâce. Nous connaissons en effet celui qui a dit « C'est à moi qu'appartienne la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite », a ajouté le Seigneur. Et il a ajouté « Le Seigneur jugera son peuple ». Oui, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. On n'aime pas ce genre de passage, on ne sait pas qu'en faire souvent. Et ce qui est très frappant, c'est que l'auteur dans le Nouveau Testament qui a le plus de ces paroles, ce n'est pas tellement l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus lui-même. Alors, je ne vais pas vous lire 1000 versets, juste 2 passages. Luc 12. « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis, ne redoutez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez redouter. Redoutez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter en enfer. » Et il dit ça à ses amis. Luc 14, verset 26. « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, et d'autres versions disent sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. » Verset 33. « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » C'est pas clair, tel passage. Alors qu'est-ce qu'on fait? On les connaît, mais on les laisse un peu de côté, on les filtre. Et mon message ce matin, c'est d'arrêter de filtrer ces messages. Ce qui fait que ce n'est pas un message qui est facile à donner, et puis ce n'est pas un message très agréable peut-être. Mais c'est le commencement de la sagesse, craindre Dieu, réaliser qui est Dieu. Si on ne le saisit pas, on fera exactement ce que je disais tout à l'heure. On va prendre des décisions stupides, on va aller dans tout. Il y a une base à connaître. C'est vrai que Dieu est bon, c'est vrai que Dieu est patient, c'est vrai que Dieu est plein de grâce. Et le Nouveau Testament le dit sans arrêt. Et puis il y a l'œuvre de Jésus qui nous purifie, qui nous lave, les péchés sont pardonnés. Et on sait qu'au centre de tout du message de Dieu, c'est la grâce. Comment ça s'articule? Comment la crainte de Dieu qui est le commencement de la sagesse, et puis cette grâce, et puis comment on fait tout ça? Comment on peut vivre ça? Mais heureusement, c'est une découverte que j'ai faite en préparant ce message, Dieu ne nous laisse pas sans indication. On parle de sagesse, le sujet c'est la sagesse. Il y a 3 livres dans la Bible qui sont les livres de sagesse. Il y a les proverbes, dont on a parlé la dernière fois, qui nous présentent ce côté de responsabilité, de capacité de faire des bons choix et de la bénédiction qui en résulte et de la malédiction qui en résulte si on ne fait pas des bons choix. Mais essentiellement, si vous faites des bons choix, tout ira bien. Et c'est vrai jusqu'à un certain point. Mais il y a d'autres livres de sagesse. Le deuxième livre, c'est l'Ecclésiaste. Lui, il est d'un pessimisme absolument total. Et le troisième livre, c'est le livre de Job. Et le Job, il est là exactement pour ça. Job, c'est l'apprentissage de la crainte de Dieu. Job est là pour nous apprendre les bases de la sagesse, craindre Dieu. Alors, je vais pas. Le problème du livre de Job, c'est qu'il est long. Alors, je l'ai relu une ou deux fois, ça prend du temps, et c'est des fois très répétitif, mais c'est très profond, et ça vaut la peine de creuser ce livre. Alors, je vais essayer juste de vous résumer. Vous savez comment ça commence? On est dans le ciel. Alors, d'abord, ça commence en disant Job, il est génial. Ensuite, on est dans le ciel, et puis Dieu dit à Satan: tu as vu mon Job? Tu as vu comme il est génial? Comme il est extraordinaire? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. Quand Dieu dit ça de quelqu'un, ben ça a une drôle de valeur. Mais qu'est-ce que fait Dieu? Il dit ça à Satan. Il titille, il secoue Satan pour lui dire: regarde-le. Voilà un que tu as raté. Voilà un où vraiment il appartient pas à ton royaume. Mais Satan, bien, il réagit: écoute, tu l'as béni, tout va bien pour lui, c'est quand même normal. Touche-le et tu verras comment il réagit. Et puis, Dieu dit à Satan: eh ben, touche-le. Cet homme que j'apprécie, qui est parfait, qui est vraiment extraordinaire, il n'y a personne comme lui sur la terre, vas-y. Et il le touche en tuant toute sa famille, il le touche, il détruit tous ses biens, et il détruit sa santé, il lui donne des maladies horribles. Est-ce que c'est juste? Comment Dieu peut faire quelque chose comme ça avec son serviteur? Et c'est Dieu qui envoie Satan, c'est Dieu qui lui ouvre le chemin et qui lui donne la permission. C'est une vraie question. Et tout ce livre va continuer à répondre à cette question. Mais est-ce que Dieu est juste en agissant ainsi? Comment Dieu peut faire une chose comme celle-ci? Et si Dieu est comme ça, ben on peut bien avoir peur de lui. Hein? C'est quand même inquiétant si on réalise, voilà ce que Dieu a fait avec Job. Qu'est-ce qu'il fait avec moi? Est-ce que Dieu est juste? Est-ce que les voies de Dieu, la manière de Dieu de gouverner est selon la justice quand ceci arrive? Et remarquez, nous on voit, parce que ça nous est ouvert, que c'est Dieu qui est là derrière. Job, il ne voit rien, mais simplement il constate ce qui lui arrive. Alors toute la première partie de ce livre, c'est celle qui est longue. Il y a trois amis qui font chacun trois discours auxquels Job répond chaque fois. C'est long. Mais quel est leur résumé? Ces amis, ils disent une chose. Dieu est juste. Ça, on le sait. Dieu est juste. Il gouverne le monde justement. Donc, la seule raison pour laquelle Job est dans cet état-là, ben, c'est qu'il n'est pas juste, c'est qu'il a péché. Et ils insistent lourdement. Et Job, il entend ça, mais il se dit, mais je suis innocent. Non, tout ce dont m'accuse est simplement faux, c'est pas comme ça. Et au fur et à mesure du livre, au fur et à mesure de ses réponses, ben, il ne sait plus où il en est, le pauvre Job. C'est vraiment des montagnes russes. Hein. Tout à coup, il admire Dieu, tout à coup, il est révolté, tout à coup, il n'y comprend rien, tout à coup, il dit « je suis juste », tout à coup, il dit « Dieu, où es-tu ?» Enfin, c'est exactement ce qu'on ressent quand nous, on passe par des moments où on n'y comprend rien. On se pose des questions, on navigue dans tous les sens. Ben, c'est ce que Job fait pendant des chapitres et des chapitres. Il est là à se battre sur cette question finalement, mais quelle est la justice de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment juste et bon? Puis après ces longs chapitres, ben, tout le monde est épuisé. les amis sont, ça, je veux dire, ils sont vraiment déçus, ils ont servi à rien. Et puis Job, il sait vraiment plus où il en est. Puis tout à coup, il y a un homme qui se lève, qui s'appelle Elihu, qui va dire, mais vous avez eu tout faux, mes amis. Et il va donner 3-4 points. Le premier point, c'est qu'il dit d'abord à Job, Job, tu juges Dieu, tu l'accuses de méchanceté, ben c'est faux. Tu as tort. Et il dit une autre chose, c'est que Dieu nous dépasse. Comment peut-on vouloir comprendre et expliquer ce que Dieu fait? Il est tellement plus grand, on ne peut pas le comprendre. Il dit aussi une chose, c'est que tous finalement, contrairement peut-être à ce que Job laissait supposer, on est tous des pécheurs. Et puis il dit une autre chose, c'est que la souffrance, c'est pas une punition, c'est un outil, c'est quelque chose que Dieu utilise pour nous instruire et nous conduire à admirer Dieu. Et à ce moment-là, ça s'arrête. Il n'y a pas de réponse de Job, parce qu'il y a Dieu qui se met en route. Et Dieu, il se met en route, la même, il va confirmer, disons, ce que dit Elihu, mais il va surtout insister sur ce fait, c'est qu'il est Dieu, qu'il est grand, que Job ne peut rien comprendre. Et il y a une longue description absolument magnifique de la création, de tout ce qu'elle fait, en disant chaque fois à Job, voilà, regarde ça, qu'est-ce que tu peux comprendre à ça? Donc, qu'est-ce que tu peux comprendre à ma manière de gouverner l'univers? Et on a une description absolument remarquable et brillante de l'univers, de la grandeur, de la beauté, de la complexité. Dieu, on a l'impression que Dieu est émerveillé de ce qu'il a fait lui-même. C'est tellement splendide. Donc, face à ça, quelle est ta position, Job? Et puis il termine par deux chapitres que j'ai trouvé vraiment étonnants. Après tout ce splendide panorama, deux chapitres qui nous parlent du Béhémoth et du Léviathan. Alors on dit des fois l'hippopotame et le crocodile, ou on dit peut-être que c'est des bêtes symboliques comme ça. Deux animaux qui sont absolument magnifiques, puissants, irrésistibles, qui peuvent tout écraser sur leur passage. Des animaux sauvages, grands, splendides, extraordinaires, mais sauvages. Pourquoi c'est bizarre quand on lit ça. On se demande pourquoi Dieu a ce discours-là pour Job. Moi, je crois que ça nous dit une chose. C'est comme sa création. Comment dire ça? Comme tout ce qu'on voit dans cette nature, dans ce monde qu'on observe, où il y a des choses absolument magnifiques, sublimes, extraordinaires, et puis en même temps des choses dures, des choses étonnantes, des choses qui nous surprennent. Eh bien, Dieu est comme ça. Il a créé des bêtes, Léviathan et Béhémoth, absolument sublimes, mais c'est des bêtes sauvages. Dieu n'est pas domestique. Dieu n'est pas contrôlable, Dieu n'est pas restreint à ce qu'on pense. Dieu, il est une bête libre, si on veut. Il domine. Et craindre Dieu, avoir peur de Dieu, c'est assez logique. Dieu est comme ça, il n'est pas... On a un Dieu qui est domestiqué, un Dieu qu'on peut contrôler. Eh bien non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu est... Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais Dieu a un aspect sauvage, un aspect dur, un aspect qui est majestueusement effrayant, si on veut. Et Job, quand il voit ça, et je trouve assez étonnant, et c'est là qu'on voit le travail de l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Je reconnais que tout est possible pour toi, et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Tu m'as dit, qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé, mais sans comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Tu m'as dit, écoute-moi, et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Voilà ce que Dieu a dit à Job. Vous voyez, voilà l'absurdité. Et Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je reconnais mes torts sur la poussière et sur la cendre. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais au travers de tout ce cheminement, de cette chose-là, maintenant, mon œil t'a vu. Dieu est-il juste dans nos vies quand il y a la souffrance, des choses qu'on ne comprend pas? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je fais bien et puis ça se passe mal? Où est la justice de Dieu? C'est la question qui se pose tout au long de ce livre. Mais il n'y a pas de réponse à ça, sinon une. Mon œil t'a vu, une vision, la magnificence de Dieu, la grandeur de Dieu, la suprématie de Dieu. Et je vous dis, c'est le travail du Saint-Esprit, parce que au lieu d'écraser Job, cette vision, eh bien, ça ouvre ses yeux à la réalité. On a chanté plusieurs chants qui parlaient de la gloire de Dieu. Ça correspondait très bien, je trouvais. Parce que si on ouvre les yeux à la réalité de Dieu, pas notre Dieu qu'on se forme nous-mêmes, à la réalité de Dieu, eh bien, il y a une révélation et on voit Dieu. Et pour voir Dieu, eh bien, il faut que Dieu travaille à démolir notre vision domestique de Dieu. Proverbe 9:10 disait, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il continue, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Voir Dieu comme ça, c'est voir le Dieu vrai, tel qu'il est vraiment. Ce n'est pas le Dieu qu'on a envie, mais il est comme ça. Et cette vision ouvre à la réalité. Notre monde, il est à la fois splendide et dur. Ben, Dieu gouverne ce monde. Et tous les aspects de ce monde qui nous plaisent ou qui ne nous plaisent pas, d'une manière ou d'une autre, viennent et sont contrôlés par Dieu. Craindre Dieu, ça veut dire quoi? Ben, face à ça, ça veut dire, première chose, je ne peux pas contrôler Dieu. S'il est comme ça, je ne peux pas contrôler Dieu. Et quand on parle de la crainte de Dieu, on fait comme je le fais maintenant, on montre à quel point Dieu est saint, est grand, est dangereux. Ben, on a tendance à faire quoi? Ben, à mettre des règles pour être sûr de ne pas lui déplaire. On dit, il faut faire ci et pas faire ça. Et c'est exactement ce que ce livre de Job nous dit. Ça ne sert à rien. C'est pas ça. Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu dit, si vous faites le bien, ben, ça ira bien. Si vous faites le mal, ça ira mal. C'est la loi générale. Mais Dieu est au-dessus de ça. Vous pouvez faire le mal et Dieu peut vous bénir. Vous pouvez faire le bien et Dieu peut vous envoyer des choses difficiles. On ne le contrôle pas. Vouloir, penser, supposer même qu'on arrive à contrôler Dieu, soit par notre conduite, soit même par la prière, soit de toute manière, non. Franchement, Dieu est plus grand et on ne comprend pas. Craindre Dieu, c'est dire, je sais que je ne peux pas le contrôler. Une autre chose qui nous force à respecter Dieu profondément, c'est quand même assez étonnant quand on voit ça. Ça veut dire que Dieu n'a aucune réticence face à la souffrance. Nous, c'est la chose qu'on n'aime pas et qu'on chasse. Mais visiblement, quand on voit là, Dieu, il n'a aucune réticence. Il n'a aucun complexe à utiliser la souffrance. Aucun. Pour nous, mais aussi pour lui. Il a utilisé la souffrance, il est venu, il a été sur cette croix. La souffrance, il l'a connue pleinement. Il n'a pas reculé devant la souffrance. Il a dit de Jésus qu'il a appris l'obéissance, la crainte de Dieu, par la souffrance. La souffrance est quelque chose qui appartient à Dieu. On n'aime pas ça, mais c'est une réalité. Une autre chose qui m'a frappé, et je trouve qui nous conduit à cette respect profond, cette crainte de Dieu, c'est que Dieu n'existe devant rien pour nous faire prendre conscience de ça. Alors, le cas de Job est un peu caricatural, extrême, c'est pour nous donner une leçon. Mais Dieu n'hésite pas à nous faire passer par des choses difficiles, simplement pour qu'on apprenne le commencement de la sagesse, pour qu'on apprenne cette chose-là. Tellement c'est important pour lui. Dieu ne va pas m'épargner parce que j'ai peur de quelque chose, parce que pour lui, c'est tellement important que j'apprenne à le voir vraiment comme il est. Il n'hésite pas à nous faire passer par des choses difficiles. Et ça marque le profond intérêt que Dieu a pour nous. Le mal, la souffrance, c'est des choses, dans un certain sens, que Dieu déteste. Ce n'est pas ce qui est sur son cœur. C'est un outil. Mais c'est suffisamment important. On est suffisamment important à ses yeux pour qu'il ait choisi ce chemin de souffrance pour nous et pour lui. Ça montre qu'on est vraiment important, que Dieu se lance dans cette chose où il y a une opposition vraiment profonde à tout ce qu'est Dieu, et qu'il ait quand même été dans ce sens-là, à cause de nous, on est important pour lui. Puis Job, c'est vrai, il ne peut pas comprendre, mais Dieu à la fin dit quelque chose que j'ai trouvé aussi très encourageant. C'est que Dieu, au travers de toute cette chose-là, il apprécie Job. Il a dit, juste après le passage que je viens de lire sur « Mon œil t'a vu », « Mon serviteur Job priera pour vous, les trois amis, et c'est parce que j'ai de la considération pour lui que je ne vous traiterai pas conformément à votre folie. En effet, vous n'avez pas parlé de moi correctement comme l'a fait mon serviteur Job. » Dieu a apprécié. Alors, quand on lit ce que Job a écrit, je vous dis, c'était un peu des montagnes russes. Hein. Il n'a pas dit que des bonnes choses. Mais Dieu voyait son cœur, voyait ce qui se passait. Et Dieu, il connaissait les limites de Job, il voyait la difficulté. Franchement, cette épreuve, elle est terrible. Ben, Dieu est plein de compassion. Il sait exactement, mais il apprécie. Quand nous tenons ferme dans des choses difficiles, alors non seulement ça nous apprend quelque chose, mais ça honore profondément Dieu. Ça réjouit Dieu. Quand même, je vous dis, on a des fois une mauvaise conception de Dieu. Pensez que la souffrance peut réjouir Dieu. Mais Job a réjoui le cœur de Dieu dans sa faiblesse et autres. Dieu attache beaucoup d'importance. Il veut vraiment nous se révéler à nous, nous faire connaître comme il est, nous faire grandir. Mais c'est profond. C'est pas seulement pour qu'on grandisse, mais c'est parce que ce chemin-là, pour Dieu, c'est réciproque, si vous voulez. C'est une relation. Pour conclure, il n'y a pas que le livre de Job qui présente cette chose assez un peu étonnante. C'est beaucoup plus fondamental. Je pense à un verset qui est archi célèbre, alors que lui, on cite souvent, contrairement à Job, c'est Exode 34, verset 6. Moïse a demandé à Dieu de se révéler à lui. Et puis Dieu a dit qu'il ferait passer devant lui toute sa bonté. L'Éternel passa devant Moïse et s'écria, « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Vous voyez, ça c'est Dieu. D'un côté, il est sévère. D'un côté, il punit. D'un côté, il juge. Dieu n'est... Il n'a pas peur de cela. Mais c'est que le commencement C'est qu'une base, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est un début, il y a toute une chose qui suit. Et il y a ce qu'on a. Alors, sur ce quoi on insiste beaucoup plus souvent, la grâce, la bonté de Dieu. Mais s'il n'y a pas ce fondement de justice, s'il n'y a pas ce fondement de grandeur majestueuse et sauvage de Dieu, ça perd un peu son. Si Dieu est tranquille, indifférent, ça n'a pas de valeur. Mais c'est parce qu'il est sévère, parce qu'il a cette haine du péché, parce qu'il y a cette espèce de violence en Dieu, que quand on dit qu'il est un Dieu de grâce, ça représente quelque chose. Faire grâce quand on a une personne qui a cette sainteté, un Dieu de grâce et de compassion. Il est lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Vous rendez compte le coût ou la valeur de ces choses si on réalise qui est vraiment Dieu. Il nous pardonne et on ne mesurera jamais à quel point ce pardon est quelque chose qui a de la valeur, quelque chose qui est précieux, quelque chose qui a coûté la vie de Jésus. N'oublions pas cette dimension-là aussi. Et on ne saisira vraiment pas quelle est la bonté de Dieu si on ne réalise pas à quel point on est loin de cette bonté, à quel point elle n'est pas méritée. Saisir la sévérité de Dieu permet de comprendre la valeur vraiment de sa grâce et de sa bonté. Puis c'est que le début, comprendre la sévérité de Dieu n'est que le fondement. Mais construisons dessus, il y a autre chose à dire. Aujourd'hui, je vous parle de cette sévérité de Dieu, mais heureusement, on ne parle pas que de cela tous les dimanches. Il y a d'immenses zones à explorer. Mais on ne les explorera, on ne les connaîtra, on ne les vivra profondément que si on part sur cette base-là. Savoir qui est vraiment Dieu, qui nous dépasse et qui est assez différent du Dieu qu'on se construit dans notre tête. Et je crois qu'il y a, et on en terminera par là, quand on comprend ça, ben c'est là qu'on admire vraiment. On parlait de louange tout à l'heure. On ne louera vraiment Dieu que si on saisit vraiment qui il est. Il est merveilleux. Comme on ne comprend jamais la nature, on n'admirera jamais la nature si on ne voit pas en même temps la valeur infinie de la création dans laquelle on est, mais aussi la distorsion, les choses vont ensemble. Connaître Dieu, c'est connaître tous les aspects de Dieu. Et ça conduit une chose, comme quand on regarde la nature, finalement, ça conduit à admirer. Et la louange, c'est admirer Dieu, mais le vrai Dieu. Je termine toujours en priant, mais cette fois je ne vais pas faire une prière dans mes propres termes, mais on va prier dans les termes d'un chant qu'on chante des fois. Bien, c'est une prière, prions. Seigneur, viens ranimer le feu que tu as mis en nous. Toi seul peux tout changer. Viens, Seigneur, nous ouvrir les yeux. Oh, manifeste ta présence. Convainc-moi de ta puissance, revêt-moi de ta sainteté, surprends-moi par ta beauté. Manifeste ta présence, convainc-nous de ta puissance, revêt-nous de ta sainteté, surprends-nous par ta majesté. Amen.